Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI au lendemain de l'annonce, enfin, du gouvernement composé de 39 ministres et secrétaires d'État. 16 jours, il a fallu 16 jours pour que le gouvernement soit constitué du jamais vu sous la 5e République. Et depuis le résultat des élections législatives, cela fait plus d'un trimestre que la France n'est plus véritablement gouvernée. L'équipe de Michel Marnier est hétérogène, mais elle fait la part belle au camp présidentiel et à la droite, on va le voir. Analyse, commentaires, perspectives sont au sommaire de ce dimanche politique. Avec vous, Émilie Zapalski, bonsoir.
Bonsoir.
Du cabinet de conseil en communication politique, Émilie Conseil. Et puis, bonsoir à vous, Erwan Lestrohan.
Bonsoir.
Directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. La droite revient en force. Les Républicains, parti dont est issu Michel Barnier, obtiennent 10 postes. Le parti fondé par Nicolas Sarkozy n'a pas eu autant de postes depuis la fin du mandat de l'ancien président. C'était en 2012. Écoutez ce que disait l'ancien Premier ministre de droite Jean-Pierre Raffarin à la mi-journée sur RTL.
Vous regardez les personnalités politiques qui sont présentes dans ce gouvernement. Vous avez du RPR, vous avez de l'UDF, vous avez des radicaux, vous avez du PS, vous avez de la société civile. Il y a 10 ans, on aurait dit « c'est un gouvernement ». Entre guillemets, normal.
Pour sa part, Marine Tondelier, qui dirige le Parti écologiste, dénonce ce coup de barre à droite, elle l'a dit sur TF1.
On voit que plusieurs ministres qui sont dans ce gouvernement ont été des fervents artisans de la privatisation. Ils ne se soignent plus dans les mêmes hôpitaux que nous, leurs enfants ne vont pas dans les mêmes écoles que nous, et donc ils s'en fichent de ce que le service public devient.
Pour sa part, Boris Vallot, député PS, écrit ceci dans un tweet. Ce que les Français ont démocratiquement sanctionné, à deux reprises, ne peut revenir par de lamentables jeux d'appareil et calculs politiques. C'est donc un gouvernement qui n'a aucun avenir. Est-ce que c'est la fin du fameux en même temps à gauche et à droite et finalement au centre, Erwan Lestrohan ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est peut-être même la seule rupture profonde qu'oppose la séquence politique actuelle. C'est la rupture consommée avec le « et de gauche et de droite ». On avait encore Gabriel Attal ou Éric Dupond-Moretti. Il y avait Olivier Véran, Elisabeth Borne, Patrice Vergette. Il y avait des personnalités de gauche qui demeuraient au sein des gouvernements précédents. Là, aujourd'hui, l'équilibre penche quand même très largement à droite. Ça déplace le centre de gravité du gouvernement et ça laisse supposer une politique plus susceptible de parler à l'électorat de droite.
Alors si le camp présidentiel n'a plus que 163 députés au Palais Bourbon, le couple exécutif a fait la part belle aux macronistes. Le président sauve donc les meubles malgré le revers de son parti aux élections, Émilie Zapalski, puisque un bon tiers du gouvernement reste plus ou moins fidèle à sa ligne politique.
Oui, oui, puis c'est étonnant hein, parce que ces élections, donc il y a eu la dissolution, ensuite les élections, et finalement on n'est pas du tout en cohérence avec les résultats puisque c'est un petit peu le bal des perdants, hein, c'est-à-dire les LR qui se retrouvent avec 47 députés, cinquième force politique de l'Assemblée nationale, et Ensemble pour la République, donc les macronistes qui ont perdu une centaine de sièges à l'Assemblée. C'est comme si on n'avait pas pris en compte les résultats de cette élection et comme si le en même temps, parce que moi je dirais que quand même le en même temps, la droitisation du en même temps était déjà amorcée, même s'il y avait des figures, comme vous l'avez dit, à gauche encore. Mais voilà, on est dans une continuité avec un raffermissement, on va dire, à droite et des personnalités quand même qui ressortent d'une manière quand même très conservateur, très à l'ancienne. C'est vrai que Jean-Pierre Raffarin disait on retrouve un peu tout le monde. Moi, je dirais que non, c'est pas très hétérogène. C'est vraiment LR et Macron. Donc, c'est le en même temps qui est définitivement à droite. C'est comme si Macron était la nouvelle droite, finalement.
Oui, un signe qu'Emmanuel Macron garde tout de même la main sur son camp. C'est Renaissance qui décroche finalement le plus grand nombre de ministres de plein exercice, 7, de ministres auprès du Premier ministre, 3, de ministres délégués et de secrétaires d'État, en l'occurrence 2, Erwan Lestrohan.
Oui, tout à fait.
Garde la main, le président.
Absolument. Et d'ailleurs, quand on interroge les Français en leur demandant qui sera selon vous, qui dirigera selon vous le pays dans les prochains mois, aux deux tiers, ils nous répondent Emmanuel Macron et pour un tiers, Michel Barnier. Pour eux, on est, et c'est ce que disait Émilie Zapalski, dans une parfaite continuité avec ce qui avait été observé auparavant. Et c'est là où il y a un décalage avec les attentes des Français, parce que très majoritairement, les Français, qui sont 80% à ne pas avoir voté pour la majorité présidentielle au premier tour des législatives, ils attendaient une rupture politique. Là, on est dans une continuité, et il va y avoir de l'insatisfaction, parce que il y a une continuité forte avec les gouvernements précédents. Ça marque surtout une survivance du macronisme qui n'attendait pas, même si on a peut-être un retournement sur la satisfaction. On avait sondé les Français au lendemain des élections législatives. 75% des sympathisants de la gauche étaient satisfaits des résultats, contre uniquement 45% des sympathisants de Renaissance et 17% des sympathisants LR. Aujourd'hui, on peut imaginer que la satisfaction a changé de camp.
De toute façon, on verra ça dans les prochains jours, puisque Odoxa publiera de nouvelles enquêtes d'opinion sur la satisfaction ou pas.
Alors, sur la satisfaction à l'égard du gouvernement, on peut peut-être faire des hypothèses là-dessus quand même et se dire que non seulement il y a une continuité avec les gouvernements précédents alors que les Français voulaient tourner la page du macronisme, il y a aussi peu de figures connues avec lesquelles ils auraient pu tisser des liens. Et parmi les figures qui sont connues, on peut penser à Rachida Dati ou Bruno Retailleau, elles sont majoritairement clivantes. Donc, a priori, on se dirigerait vers plutôt une insatisfaction majoritaire. On verra ce que disent nos sondages. Mais en tout cas, il y a un décalage entre ce qu'attendaient les Français, à savoir un gouvernement d'union nationale, de coalition, où soient représentées les forces politiques au prorata de ce qu'elles ressemblent à, de ce qu'elles représentent à l'Assemblée nationale. Il y a un décalage parce que ce n'est pas ce qui n'a été donné. Ce que disait Émilie Sapalsky, on a un gouvernement qui est très majorité présidentielle, LR surtout.
Alors, ce qui est à voir, c'est la réalité de ce que disait Michel Barnier quand, juste après sa nomination, il clamait que le président préside et que le gouvernement gouverne. Parlons même de domaine partagé et non plus de domaine réservé au chef de l'État. Six ministres, Émilie Sapalsky, six ministres lui sont d'ailleurs directement rattachés, comme le budget et l'Europe.
Oui, on sent bien qu'il va y avoir cette lutte un petit peu d'indépendance, d'essayer pour Michel Barnier d'avoir cette indépendance vis-à-vis d'Emmanuel Macron qui définitivement a du mal à lâcher puisqu'il devait nommer le Premier ministre. Mais on sent bien qu'il a mis sa patte aussi, qu'il a mis son grain de sel pour les différents ministres, refusant par exemple, mais elle est re-rentrée par la fenêtre d'ailleurs, Laurence Garnier aux familles qui était trop connotée conservatrice pour ses votes précédents sur le mariage pour tous, notamment. Donc, on voit bien qu'Emmanuel Macron est toujours là, a toujours la main. Et Michel Barnier a notamment, alors vous avez parlé d'Europe, mais il a aussi rapatrié le budget, donc ce qui est très important vu la situation financière de la France, pour essayer de garder la main. Mais au-delà de cette lutte, de ce duel qu'il va y avoir entre Emmanuel Macron et Michel Barnier, avec cette habitude d'Emmanuel Macron de toujours garder la main, c'est au niveau du Parlement, parce que finalement, la marge de manœuvre est de l'un et de l'autre va être très réduite, parce que l'idée, c'est de gouverner pour ne pas être censuré, vu qu'il n'y a pas de majorité. Donc ça va être compliqué, et on sait que ceux qui ont la main sur la censure, c'est globalement le Rassemblement national, ouais, donc probablement aussi cette connotation très
On va en parler dans un instant de ce qui va se passer à l'Assemblée au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Avant cela, Erwan Lestrohan, la cote de popularité du président de la République, elle en est où avec cet épisode interminable du changement de majorité à l'Assemblée nationale et de l'attente du gouvernement?
Eh ben, elle est au plus bas. Elle est sous le niveau qu'on mesurait au moment des Gilets jaunes, qui avait été sa plus forte période d'impopularité. Elle est sous ce niveau. La seule différence pour Emmanuel Macron, qui est descendu sous le niveau, sous le seuil plancher de Nicolas Sarkozy, la seule différence qu'il a avec François Hollande, c'est qu'il n'y a pas de frondeur au sein de Renaissance et de la majorité présidentielle. Donc il a encore le soutien de sa base électorale, mais il est impopulaire dès qu'on dépasse les frontières de Renaissance, avec le parfum d'une fin du Nouveau Monde promis en 2017, avec un gouvernement qui est loin des idéaux européens d'Emmanuel Macron. On a dit qu'il est sorti du « et de droite et de gauche », même si la droitisation était déjà engagée. La compétitivité économique n'est pas au rendez-vous. Donc on voit bien que Emmanuel Macron est non seulement démonétisé, mais également fortement impopulaire, et que les Français ne veulent plus qu'il soit au premier plan pour les trois prochaines années de son second mandat.
Vous écoutez Dimanche Politique sur Radio France Internationale.
Philippe Le Caplain.
Alors, cette coalition, cette alliance, cet attelage, c'est comme on voudra, est censé séduire l'Assemblée nationale, mais la gauche est déjà en embuscade en promettant une motion de censure après le discours de politique générale prévu le 1er octobre prochain. Confirmation du député socialiste des Yvelines qu'est Aurélien Rousseau.
Le gouvernement, oui, il faut le faire tomber parce qu'on va voir, je le redis, ce que c'est qu'une politique de droite.
Et pour justifier cette action, Olivier Faure, chef du PS, dénonce la dette accumulé ces dernières années.
On nous explique qu'il y a une dette, mais la dette, elle n'est pas venue toute seule. Ce n'est pas simplement, en fait, un cataclysme qui se serait abattu sur la France. Non, la dette, elle est liée au fait que les cadeaux fiscaux se sont multipliés depuis 7 ans pour les plus riches. Et donc, cet argent qui ne rentre plus dans les caisses de l'État, créer de la dette.
Il y aura des choix forts à assumer, a prévenu le nouveau ministre du budget lors de la passation de pouvoir. C'était il y a une heure et demie de cela. L'élaboration du budget constituera plutôt le baptême du feu pour le gouvernement. Là encore, il faut remarquer que le ministre, un macroniste des comptes publics, est sous la tutelle directe du chef de l'État, Erwan Lastreau. Ça, c'est important.
Oui, c'est un point très important et c'est fondamental même dans le soutien à la politique qui va être mise en œuvre, parce que il y a un liant commun, un dénominateur commun entre l'électorat de la majorité présidentielle et des Républicains, c'est cette question de la compétitivité de l'économie, de désendettement de la France. Par contre, ça peut poser un problème pour le soutien du RN, parce que la question du désendettement public, c'est assez peu en tête des préoccupations de l'électorat RN, qui est très préoccupé par le pouvoir d'achat, beaucoup moins par la thématique macro du désendettement, et qui sera peut-être moins enclin à faire des sacrifices au nom du désendettement de la France. Donc il y a une ligne de crête pour la majorité présidentielle sur ce sujet, qui devrait ne pas être forcément conciliable avec ce qu'attend le RN.
Justement, c'est le premier moment de vérité pour le soutien conditionnel du Rassemblement national, comme le remarquait tout à l'heure l'ancien président socialiste François Hollande sur France Bleu Limousin.
Il est fragile parce qu'il est lourd, ce gouvernement, sans poids lourd d'ailleurs. C'est un gouvernement fragile parce qu'il ne tient pas survie qu'au Rassemblement national.
Le RN qui sera très, très attentif à la politique du gouvernement en matière d'immigration également. Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme sur LCI.
Faut-il rappeler que la loi avait été censurée par le Conseil constitutionnel? La seule façon de passer au-dessus du Conseil constitutionnel, c'est de revenir au peuple, c'est de lancer un référendum sur l'immigration qui permette au peuple français de reprendre le contrôle de ses frontières.
Et sachant que le ministère de l'Intérieur est revenu au conservateur, qu'est Bruno Retailleau, l'ex-sénateur LR a prévenu qu'il veut plus de sécurité et moins d'immigration. C'est lui qui fera peut-être pencher la balance du côté de la censure ou pas pour ce qui est du Rassemblement national, Émilie Zapalski.
Oui, ça va être compliqué hein, parce qu'on le sait, et d'ailleurs Jean-Philippe Tanguy l'a dit, hein, la loi immigration qui avait pourtant été durcie, notamment au niveau du Sénat pour que les LR puissent la voter ensuite, elle a été retoquée au Conseil constitutionnel et finalement on donne toujours la priorité au Rassemblement national où on se dit finalement, c'est ce que disait Jean-Marie Le Pen, hein, on préférera toujours l'original à la copie. Donc on sent bien le RN qui commence à faire monter les enchères pour leur dire attention, vous n'allez jamais aller aussi loin que nous. Donc c'est un jeu compliqué que va faire le gouvernement. On sent cette personnalité de Bruno Retailleau. On se souvient hein, de ses propos. Il faut supprimer l'aide médicale d'État. Enfin, il a des propos. Il est vraiment très, très loin. Mais est-ce qu'il peut faire ça? Parce qu'il y a évidemment cette censure du RN. Il y a la censure de la gauche. Donc ça va être une politique de petits pas. On entend la même chose sur les impôts. On y va tout doucement. On va peut-être cibler que les entreprises ou les personnes les plus aisées pour ne pas fâcher la gauche également. On sent bien, moi j'interroge quand même cette idée de choix fort. Je ne vois pas comment avec cette assemblée si morcelée et avec cette menace de censure, on peut faire des choix forts. Moi j'ai plutôt l'impression que ça va être de la tactique, un petit peu comme ce qui s'est fait avant, un peu à gauche, un peu à droite, pour être sûr de passer quelques petites choses, mais pas des grandes réformes. Et les choix forts, je ne les vois pas pour le moment.
Alors justement, Erwan Lesserand, est-ce que Jordan Bardella fait un pas de plus vers la censure quand il écrit un tweet dans lequel... Il est exprimé ceci, ce que les Français ont démocratiquement sanctionné à deux reprises ne peut revenir par de lamentables jeux d'appareils et calculs politiciens. C'est donc un gouvernement qui n'a aucun avenir. Donc la position initiale du RN qui était on va laisser vivre le gouvernement Barnier et on verra après, avec cette déclaration, est-ce que c'est une inquiétude pour Michel Barnier?
Oui, probablement. C'est une manière pour Jordan Bardella de rappeler au gouvernement qu'il est en sursis et qu'il est soumis à son soutien pour continuer à exister. Ça explique peut-être aussi la nécessité que Michel Barnier exprime, alors à l'occasion de son discours de politique générale, à l'occasion de ses prises de parole dans les prochains jours, une certaine fermeté sur la sécurité et l'immigration, parce que le Rassemblement national, ils ont aussi le défi de montrer que le gouvernement met ses projets en œuvre, que le RN fixe l'agenda politique sur la sécurité et l'immigration. C'est un peu là-dessus, à ça qu'ils ont conditionné leur soutien. Mais ils doivent aussi ne pas s'engager dans un soutien qui les discréditerait aux yeux de leur électorat, parce qu'ils ont 2027 en ligne de mire, et apparaître comme des alliés du gouvernement aujourd'hui, ça peut être destructeur dans leur rêve d'accéder à la présidence.
Et tout cela finalement se retrouve dans ce que vient de dire Michel Barnier. C'était il y a quelques minutes sur la chaîne de télévision France 2, quand il parle de compromis, de culture du compromis. Écoutons le Premier ministre.
Le choix, c'était de dégager l'action des deux ans qui viennent le plus possible de ce qui va se passer après avec les élections présidentielles. Et en même temps, d'être utile pour améliorer, pour créer des progrès dans la vie quotidienne des Français sur tous les sujets que les personnes interrogées tout à l'heure ont dites. Voilà, c'est ça le choix. Et on va faire des compromis. Cette culture du compromis que je connais assez bien.
Elle est assez rare en France.
C'est comme ça que j'ai réussi à réaliser l'unité des 27 pays de l'Union européenne au moment de la négociation du Brexit. C'est comme ça qu'on négocie à Bruxelles ou à Strasbourg. Il n'y a pas de majorité au Parlement européen. Il faut l'apprendre, cette culture du compromis. Ce n'est pas la compromission. C'est la culture du compromis avec des gens qui ne viennent pas du même endroit, qui ne vont pas forcément au même endroit, mais qui, pendant un certain temps, font ensemble un compromis pour le progrès du pays, pour servir les gens.
Autre déclaration du nouveau Premier ministre, il évoque des prélèvements ciblés sur les plus fortunés et certaines grandes entreprises, mais dit que globalement, il ne va pas alourdir l'impôt sur l'ensemble des Français. Pour ce qui est de l'immigration, il dit on va faire des choses pratiques pour limiter cette immigration. Et concernant les comptes publics, il faut garder la crédibilité de la France sur les marchés. Émilie Zapaski, sur cette culture de compromis, est-ce que c'est la méthode Coué ou est-ce que c'est un vœu pieux d'après vous ?
Je pense que c'est un peu la méthode Coué parce que c'est difficile d'accepter pour les uns et les autres du compromis quand on nomme au gouvernement plus ou moins des perdants, comme je disais, et que le cahier des charges est quasiment défini à l'avance. Ce n'est pas vraiment un compromis. Alors évidemment, on sait que Michel Barnier, avec les négociations du Brexit, il a été très, très persévérant, très tenace, et qu'il a réussi. Ça a mis 3 ans. J'espère que ça ne va pas mettre 3 ans pour le budget. Mais je pense que c'est un peu un vœu pieux, parce que la direction, l'orientation qui est donnée, ne serait-ce que par les personnalités qui sont nommées au gouvernement, ne donne pas beaucoup d'ouverture. Et on sait très bien qu'il a cherché des personnalités à gauche. Alors ils ont trouvé Didier Migaud, hein, qui est la garantie qu'il y ait un peu d'ouverture dans ce gouvernement.
Avec ce député socialiste.
Ce n'est pas la réalité. On voit bien que la gauche n'a pas du tout envie d'aller dans le même sens et que le RN est là, comme vous l'avez dit. S'il y a des impôts supplémentaires sur les classes moyennes, alors là, ça ne va pas être possible parce qu'ils défendent le pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'ils se recroquevillent sur les entreprises et puis les plus fortunés, parce que ça peut notamment créer un peu du compromis, parce que c'était déjà des idées qu'il y avait dans la majorité, hein, au niveau du Modem, notamment les alliés. Et c'est des idées que peuvent partager les autres partis. Mais encore une fois, je pense que ça va donner quelque chose qui va être des petits pas. Pourquoi pas, hein ? Mais il n'y aura pas d'envergure. Et puis, moi, je suis étonnée, encore une fois, par le vocabulaire employé par Michel Barnier, parce qu'il parle de progrès, de crédibilité de la France au niveau financier. Mais en 7 ans, où est-ce qu'on est arrivé quand même ? On a un déficit qui va frôler les 5,6%, on a 3 000 milliards d'euros de dettes, et le progrès, je ne sais pas trop où c'est, si on regarde les services publics et même l'emploi, ça a progressé, mais pas assez, quoi. Donc, il veut refaire la même chose avec un bel élan, avec une belle rhétorique. Ça me semble un peu maigre pour créer la dynamique, et notamment au niveau des Français.
Vous partagez cette analyse, Erwan Lestrohan ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on sait que c'est un Premier ministre qui va entrer à Matignon avec un sursis qui l'entoure, ce qui n'était pas le cas des précédents premiers ministres qui avaient connu des popularités un tout petit peu plus élevées que celles de Michel Barnier en entrant à Matignon. Aujourd'hui, il va falloir réussir à ménager la chèvre et le chou entre l'aile gauche de la Macronie et un Rassemblement national qui reste quand même une épée de Damoclès pour ne pas voter la défiance à l'égard du gouvernement. Mais c'est vrai que sur ces compromis, il y a énormément d'écueils qui font face au gouvernement. On se rappelle de la loi immigration, on parlait à la fois d'humanité et de fermeté avec faciliter la régularisation, les régularisations sur les métiers en tension d'une part, supprimer l'AME d'autre part. On voit les débats houleux que ça avait entraîné et surtout l'impossibilité à trouver une majorité et humaine et ferme à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un point. Sur le budget, les choses vont aussi être très difficile parce que les Français, on les a sondés la semaine dernière sur les questions de hausse des impôts et de désendettement de la France. Ils sont vent debout contre la perspective d'une hausse des impôts. Le ras-le-bol fiscal persiste. Il y a toujours plus de la moitié des Français, 55%, qui estiment que le niveau des impôts qu'ils payent est trop important et les classes moyennes sont celles qui sont les plus inquiètes.
Sondage Odoxa. Erwan Lestrohan, vous en êtes directeur conseil. Merci Émilie Zapaski du cabinet Émilie Conseil. C'était Dimanche Politique, à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale. Merci.